Si vous le pouvez, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Nous continuons dans la série sur les béatitudes et on va juste regarder un verset ce soir. Mais gardez peut-être un doigt dans Matthieu 5 et suivant et un doigt dans Ésaïe. De temps en temps, on ira regarder quelques passages aussi dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre du prophète Ésaïe. Lorsque j'étais ado, une de mes fêtes préférées, c'était le Thanksgiving, qui est une fête américaine où on rend grâce. Et le moment le plus important de Thanksgiving, donc, c'est ce repas de reconnaissance où on mange de la dinde et toutes sortes d'autres bons aliments et que ma mère préparait. Et j'aimais tellement Thanksgiving pour plusieurs raisons. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient à la maison et on avait chacun le droit d'inviter deux amis pour venir prendre ce repas avec nous. Mais aussi parce que la nourriture était tellement bonne et il y avait une surabondance de nourriture. C'était un de ces repas, même quand on est ado, on pouvait se resservir autant de fois qu'on voulait. Et puis, il n'y avait pas de souci. Et donc, j'avais trouvé un système assez jeune déjà pour comment optimiser l'expérience de Thanksgiving. Et pour ce faire, le déjeuner le matin et puis aussi le repas de midi, je mangeais aussi peu que possible. Comme ça, le soir arrivé, quand c'était le moment d'avoir le repas, je pouvais manger le maximum possible. Et donc, cette stratégie de très, très peu manger pendant la journée avait deux effets. Lors du repas, premièrement, on pouvait manger effectivement plus. On pouvait se servir trois fois plutôt que deux fois ou même peut-être trois fois et demi. Et puis, l'autre chose qu'on remarque, et je suis sûr que vous avez vécu cela aussi, c'est que le repas est meilleur lorsqu'on a vraiment, vraiment faim, n'est-ce pas? On apprécie plus. Alors, si j'avais plus d'autodiscipline ce jour-là, je mangeais très peu, alors j'avais très faim le soir. Et d'autres jours, bon, c'était, j'avais déjà mangé pas mal et ça allait comme ça. On a ce sentiment d'avoir faim, et puis quand on est rassasié, alors ça va tellement mieux. Et parfois, des repas très simples, d'accord, juste un peu de pain ou un peu de pâte, avec quelque chose de simple à côté, si on est affamé, bon, ça devient quelque chose de délicieux. Et Max Donner, dans un de ses messages, il a mentionné une fois, ça m'a vraiment frappé, il dit, « En tant qu'être humain, nous vivons proche de la mort, car il nous faut peu de choses pour perdre notre survie. On nous enlève la nourriture, et au bout de quelques semaines, on meurt, n'est-ce pas? On nous enlève l'eau, au bout de quelques jours, on meurt. On nous enlève l'oxygène, au bout de quelques minutes, on meurt. Et Dieu nous a créés capables et même ayant besoin de ressentir ce besoin de ces choses essentielles pour la vie. Ce besoin de nourriture, ce besoin d'eau, ce besoin d'air. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 6, il va utiliser ce langage de besoin vital. Et voici ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et Jésus ici s'adresse à ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, qui ont besoin de tout leur cœur de la justice, avec cette promesse qu'ils seront rassasiés. Ce sont des paroles assez simples, on pourrait dire. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire quand il parle de ces gens qui ont faim et soif de justice? Est-ce que c'est comme dans les films de super-héros où il y a le méchant qui sévit et puis on espère que Iron Man ou Superman ou quelqu'un va venir frapper tous les méchants et puis c'est réglé? On veut une vengeance contre les méchants. Ou est-ce qu'il y a plus que cela? Je crois que ce sera important pour nous, en lisant cette béatitude et en y réfléchissant, qu'est-ce que c'est que d'avoir faim et soif de justice, de vraiment comprendre ce que Dieu a dit, ce que Dieu voulait dire à travers ce terme « justice » dans tout l'Ancien Testament et aussi dans l'enseignement de Jésus. Parce que c'est un mot très riche en sens et qui a une grande variété aussi de sens et d'application. Et donc, quand on dit avoir faim et soif de justice, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous? Parce que nous voulons avoir faim et soif de justice aussi, car Jésus promet d'être rassasié. Et donc, trois choses que j'aimerais que vous sachiez, qu'on sache sur la justice selon la Bible. Premièrement, que la justice, c'est l'un des attributs et l'une des œuvres de Dieu lui-même. D'accord? Quand on pense justice et recevoir la justice, il faut penser à Dieu. Quand on regarde dans les psaumes, et nous avons souvent l'occasion donc d'entendre des psaumes qui demandent à Dieu de faire justice, n'est-ce pas? Mais Dieu est décrit comme le Dieu juste, comme le Dieu qui traite les gens justement, selon ce qu'ils méritent, soit en bien, soit en mal. Deux, juste un exemple qu'on peut regarder, c'est le psaume 89 et le verset 15, où nous lisons ceci dans cette description de Dieu. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Et vous voyez, hein, ces mots justice, droit, bienveillance et vérité, mais qu'est-ce qui est le fondement du trône de Dieu dans cette image? Bon, c'est la justice et le droit. Et donc, quand on parle de la justice, dans le contexte de l'Ancien Testament et du Nouveau aussi, c'est cette idée, entre autres, du jugement de Dieu qui vient. De nouveau, un autre psaume, pas très loin, le psaume 96, verset 13, nous lisons, car il vient, en parlant de Dieu, de Yahvé, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Dans Ésaïe 10, 22, le prophète dit, quand ton peuple ou Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement en reviendra. L'extermination est décidée, elle fera déborder la justice. Et une des idées que nous trouvons très, 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 très souvent dans l'Ancien Testament, c'est que la justice, c'est Dieu qui vient dans le monde pour juger, mais selon le droit. D'accord? Juger de la bonne manière. Cela signifie libérer et délivrer les innocents et punir les méchants et les oppresseurs et ceux qui ont le pouvoir pour exercer la cruauté. C'est pour dire aux méchants cela suffit et dire aux gens qui recherchent le bien et la justice, vous êtes enfin libres. Et quand on est donc rassasié de justice, c'est parce que Dieu est à présent à l'œuvre dans le monde. Alors peut-être cela ne nous parle pas beaucoup, parce que nous vivons dans une société qui est passablement juste. Il y a, comme dans tous les pays, de la corruption, des lois qui ne devraient pas l'être. Mais vous savez, il n'y a personne qui va venir à ma porte, frapper demain, et me dire « Donnez-moi 10 000 francs, ou votre maison va brûler. » Si je vais au tribunal, ça m'est jamais arrivé, mais si je vais au tribunal, je peux m'attendre à peut-être des procédures difficiles, peut-être à pas avoir tout ce que je mérite et ce qui est droit, mais avoir quand même un système qui cherche la justice et qui cherche ce qui est droit. Mais pour beaucoup de personnes dans le monde, et encore plus de personnes dans l'Antiquité, la justice, c'était pas quelque chose qu'on trouvait, hein, souvent. Et donc, de demander à Dieu d'intervenir, c'était, l'appel des faibles. Parce que ce n'était pas un seigneur, ce n'était pas un prince, ce n'était pas un roi ou un juge qui allait les protéger, mais c'est Dieu lui-même. Et Dieu se présente comme celui qui vient dans le monde pour juger et pour rétablir le droit, pour protéger les innocents et pour rendre aux méchants selon son œuvre. Et je crois donc une des idées qu'il faut voir ici, qui est importante, c'est que Jésus est en train de dire à ces personnes qui l'écoutent, qui attendent l'intervention de Dieu dans le monde, hein, il est en train de dire, vous avez raison d'attendre la justice de Dieu, parce qu'il ne va pas vous décevoir. Dieu ne tarde pas, il va venir pour juger. Mais il y a plus que cela aussi. Et donc, comme on l'a vu, la justice, c'est un des attributs et c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est aussi une affaire de société. Et j'ai déjà mentionné ça un peu. Il y a des gens qui souffrent quand ils regardent autour d'eux et voient l'injustice dans le monde, qui voit la manière que les forts écrasent ceux qui sont sans force. Et ces gens qui voient le mal, ils vont lutter pour faire le bien, pour faire justice. Et l'action de chercher la justice pour les autres dans un monde d'injustice, ça correspond au caractère de Dieu et à l'intention de Christ aussi. C'est pas juste l'idée, je veux qu'on défende mes droits, mais je veux que les droits et le bien des autres autour de moi soit protégé. Et donc, une société peut être décrite comme étant juste ou injuste. D'accord? Pas juste au niveau individuel, mais au niveau social. Et dans Ésaïe chapitre 5, nous avons une description d'Israël comme une vigne. Et dans Ésaïe 5, verset 7, c'est intéressant ce que dit Dieu. Ésaïe 5, verset 7. Il dit « La vigne de l'Éternel des armées » c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré, donc Dieu avait espéré la droiture, et voici du sang versé. de la justice et voici des cris de détresse. Quand Dieu s'est formé un peuple, une nation qui était Israël, quel était son rêve? Quel était son désir pour cette nation? Bon, il désirait la droiture et la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une société dans laquelle les faibles, comme les forts, recevaient le droit, se traitaient avec les uns les autres avec honnêteté et comme il fallait. Mais plutôt que cela, on voit dans le message des prophètes sans arrêt que c'est plutôt la corruption, la violence et les faibles qui sont écrasés. Et donc, si la justice, c'est ce qui peut décrire Dieu et ce qu'il fait, nous voyons aussi que la justice, c'est un ordre dans la société que les hommes droits, que les gens, selon Dieu, sont en train de rechercher. Ils recherchent une société où règne le droit et l'équité. Et quand on pense à l'époque de Jésus, d'accord, si on était juif en Palestine au 1er siècle, qui n'avait pas faim et soif de justice dans cette société? Qui ne désirait pas? Peut-être ça peut nous aider de regarder la question à l'envers. Bon, les juges corrompus d'Israël, que Jésus critique à plusieurs reprises, et les mauvais chefs politiques du peuple, vous savez, eux, ils n'avaient pas faim et soif de justice. Hérode, lorsqu'il se couchait chaque soir, il ne se disait pas si seulement il y avait plus de justice en Israël. Les voleurs, les hommes violents, les oppresseurs, les fraudeurs, les menteurs, les traîtres, ils ne désiraient pas et ils n'avaient pas faim et soif de justice. Ceux qui profitaient de l'injustice dans la société, qui voyaient les mauvais systèmes en place, les mauvaises situations des autres, et qui se disaient « voici une manière de tirer profit de la situation ». Ceux qui s'enrichissaient grâce à l'injustice, eux n'avaient pas faim et soif de justice. Et finalement, les indifférents, ceux qui ignoraient le malheur des pauvres et des opprimés, qui ne faisaient rien pour les secourir, eux non plus n'avaient pas faim et soif de justice. Mais il y a des gens qui l'avaient. C'est ceux qui étaient justement opprimés, qui étaient les laissés pour compte de la société. En Israël, au temps de Jésus, on attend le Messie car les chefs sont mauvais. On attend le royaume de Dieu car on voyait autour de nous que le royaume n'était pas encore arrivé. Et les gens avaient faim et soif de justice car leur chef était injuste et leur juge était corrompu. Et je lisais quelqu'un à ce sujet, il a fait la remarque, vous savez, dans les pays où l'injustice règne jusqu'à aujourd'hui, les gens ont tendance à avoir faim et soif. C'est dans les pays où l'injustice règne qu'on trouve les famines et la disette et le besoin. Et Jésus parle à une société comme celle-là, mais dit, si vous avez faim et soif de justice, vous serez rassasiés. Pas juste l'intervention de Dieu, mais de vivre dans une société, dans une communauté où règne la justice. Et vous le savez, bon, troisièmement, si la justice c'est l'œuvre de Dieu, c'est la description d'une société ordonnée selon la volonté de Dieu, la justice décrit aussi le comportement individuel de chaque personne. C'est la dimension morale et la dimension du cœur de chaque individu. La justice dans l'enseignement de Jésus, dans le sermon sur la montagne en particulier, c'est l'idée d'un comportement qui est opposé au mal. C'est l'idée de vivre selon la volonté de Dieu. Dans Matthieu 5, 45, juste quelques exemples. Matthieu 5, 45, Jésus dit ceci. Donc, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il y a ce parallélisme qu'on trouve tout le temps dans la Bible. Il y a les méchants et les bons, les justes et les injustes. C'est-à-dire que les justes, c'est synonyme avec les bons ici. C'est ceux qui pratiquent le bien. Et dans l'évangile de Matthieu et dans les autres évangiles, nous rencontrons des gens qui sont déclarés justes parce qu'ils recherchent et pratiquent le bien. Joseph, l'époux de Marie, est appelé un homme juste. Jean-Baptiste est celui qui vient pour accomplir la justice de Dieu. Abel est appelé le juste. Celui qui a été tué par Caïn. Le prophète Zacharie est appelé le prophète juste. C'est ceux qui étaient honnêtes dans leur rapport avec les autres, qui avaient un désir d'obéir et de plaire à Dieu, des gens qui ont fait du bien aux autres par leur vie. Et dans Matthieu chapitre 25, dans la scène du jugement des nations, il y a Jésus qui dit que ceux qui ont donné à manger ou donné à boire à ceux qui avaient faim et soif, ceux qui ont recueilli l'étranger, ceux qui ont revêtu ceux qui étaient nus, ceux qui ont visité les malades, ils l'ont fait, et l'ont fait dans un contexte d'amour pour Dieu et pour Christ, ils ont fait accomplir la justice, qu'ils étaient justes. Et donc, la justice, c'est pas forcément l'idée d'être irréprochable, moralement, d'accord, ou d'avoir l'accès à Dieu sur ses propres mérites. Mais c'est l'idée de vivre une vie qui recherche Dieu, qui recherche le bien et qui cherche à le plaire en servant les autres. Et donc, il y a ce désir-là. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice dans leur propre vie, qui ont un désir ardent de faire le bien afin de plaire à Dieu, qui ne se complaisent pas dans leur médiocrité spirituelle, qui ne se complaisent pas non plus dans la situation actuelle, spirituelle qu'ils ont, mais qui ont un désir de justice dans leur vie. Et donc, le sermon sur la montagne, l'enseignement de Jésus qui suit, va nous aider à comprendre et à voir ce qu'est une vie juste, une vie qui recherche Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, versets 19 et 20, Jésus dit même que celui qui violera l'un des plus petits commandements de la loi, en parlant à des Israélites, et qui enseigne aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui en mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc, c'est une vie qui porte les fruits de la repentance, qui désire Dieu. Vous savez, la justice, c'est une vertu de tous les jours. On peut pas dire, ah voilà, quelqu'un est très juste parce qu'il va au culte une fois par semaine et se comporte très bien au culte. D'accord. La justice, c'est pas vraiment un mot qu'on va utiliser pour décrire comment se passe une étude biblique ou une réunion de prière. Le mot nous force à penser à la vie quotidienne, à comment on remplit notre déclaration d'impôt, à comment on traite notre employeur ou nos employés, à si on est fidèle à nos promesses et nos engagements les uns envers les autres, à si on se sert de nos privilèges dans la vie pour aider ou pour abuser des autres. La justice, c'est vraiment quelque chose du quotidien. Et Jésus dit que ceux qui ont faim et soif de cette justice, là, dans leur propre vie, ils seront rassasiés. Mais en même temps, il faut pas oublier cela non plus. Les gens honnêtes avec eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas justes devant Dieu. On pense au psaume 143 où David dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur ». Il dit ça à Dieu. « Car aucun vivant n'est juste devant toi. Personne n'est juste par ses propres mérites. Mais par contre, il y a des gens qui désirent ardemment être justes. Pas d'être moralement parfait, mais de grandir et d'avoir une vie qui porte des fruits pour Dieu. Ils désirent plaire à Dieu par leur vie et par leurs œuvres. Et Jésus dit à ces personnes-là, vous serez rassasiés. Et sans doute, de très nombreuses personnes à qui Jésus parle ici, ils ne sont pas en train d'être justes pour l'instant. Bon, peut-être il y en a qui suivent la loi, qui voient beaucoup de gens autour d'eux qui n'obéissent pas à Dieu. Ils ont un cœur pour Dieu, mais ils désirent grandir. Mais peut-être il y en a d'autres qui ont des vies complètement pourries par le péché. Mais à cause de l'enseignement de Jésus, de Jean-Baptiste qui est venu avant, ils désirent maintenant la justice dans leur vie. Ah, et Jésus a un message pour eux aussi en disant « Oui, la justice est possible ». Donc, quelle est cette attente? Quelle est cette faim et soif de justice? Bon, c'est la faim et la soif de l'intervention de Dieu dans le monde pour juger selon la justice, pour rétablir le droit. C'est le désir de vivre dans une culture, dans une société, dans une communauté où règne le bien et le soin des pauvres et des faibles et l'honnêteté. Et c'est le désir pour soi-même de devenir quelqu'un qui cherche Dieu et qui fait le bien aux autres par ses œuvres. Et donc, Jésus dit à ces personnes-là, hein, vous serez rassasiés. Mais l'autre question que nous devons poser, bien sûr, c'est quand est-ce qu'ils seront rassasiés? Au niveau macroscopique, au niveau le plus large, nous savons que tous ces désirs seront pleinement réalisés hein, au retour de Christ. Et quel est l'un des aspects les plus importants du retour de Christ? Bon, on parle de la résurrection des morts, mais c'est le jugement dernier. Et je ne sais pas si le jugement dernier vous fait peur ou pas, ou peut-être c'est un peu des deux. Mais dans le jugement dernier, nous verrons pleinement la justice de Dieu. Personne ne pourra dire, à la fin des temps, « Ah, Dieu s'est trompé, là. » Ou « Dieu n'a pas vraiment traité cette personne comme il désirait. » Il est le juste juge et il va donner un jugement entièrement juste. Et donc, nous serons rassasiés au retour de Christ. Dans notre vie de ressuscité, dans la présence de Dieu, nous pourrons vivre pleinement la sainteté et la justice que Dieu désire dans nos vies. Et nous vivrons en harmonie les uns avec les autres d'une manière absolument parfaite. Et donc, nous avons une espérance, et cela fait partie de la proclamation de l'Évangile, de voir la justice de Dieu révélée dans le monde, de vivre dans un monde et dans une société de justice, et d'être purifié et justifié pleinement en nous-mêmes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je ne crois pas qu'il faut limiter les paroles de Jésus à la fin des temps. Parce que quand même, ça nous laisserait un peu déprimés d'ici là, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste tenir bon jusqu'à la mort, et ensuite, enfin, on sera rassasié. Non, il y a deux choses qu'il faut voir. Dans l'Ancien Testament, on disait que on serait rassasié de justice à la venue du Messie. Que quand le Christ vient, c'est alors qu'on serait rassasié de justice. Juste un passage qui parle de cela. Ésaïe chapitre 9, le verset 5 et 6, les versets 5 et 6. Nous lisons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et il y a ce passage dans Ésaïe 11, qu'on ne va pas lire en entier, mais qui décrit le rameau d'Isaïe, le descendant de David, qui va venir régner. Et dans, au verset 5, il dit « La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. » Quand Jésus vient, il vient pour accomplir toute justice. Et Jésus est déjà venu. Il a déjà inauguré son royaume. Et donc, la justice est présente. Mais comment est-ce que nous le voyons dans nos vies? Bon, au niveau individuel, si Jésus a amené le règne de Dieu, le royaume des cieux, par sa venue, un règne de justice, pour nous, c'est lorsque nous recevons l'Esprit Saint que nous pouvons participer à cette justice. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu dit, nous apprenons au sujet de Christ que celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez, une justice de vie, une pureté de comportement, une bonté de notre vie, cherchée en dehors de Christ, ne sera jamais satisfaisante ni satisfaite devant Dieu. Si on cherche juste à se dire « je vais faire assez de bonnes œuvres aujourd'hui pour être quelqu'un de juste », on va jamais être à la hauteur, vous savez. Et il y a des gens qui sont très justes dans leur vie, mais qui ne connaissent pas Christ. Et gloire à Dieu pour le bien qu'ils font. Mais cette justice-là, c'est pas celle qui plaît à Dieu et qui est celle qui nous permet d'être devant lui. C'est seulement la justice qui vient de Christ. Mais l'Esprit de Dieu rassasie, n'est-ce pas? Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et l'Esprit de Dieu nous libère du mal afin de nous permettre de pratiquer la justice. Vous savez, l'œuvre de Christ, ce n'est pas simplement de nous pardonner de nos péchés, mais c'est de nous donner le pouvoir de pratiquer la justice que Jésus a décrit. Romains chapitre 6, c'est le dernier texte que nous allons voir ce soir. Romains 6, les versets 16 et puis 18 et 19. Paul a dit aux chrétiens que s'ils ont été baptisés en Christ, ils ont revêtu Christ. Ils sont morts avec lui. Revêtir Christ, c'est un autre moment. Mais ils sont morts avec lui pour ressusciter avec lui en nouveauté de vie. Et voici ce qu'il dit, donc au verset 16. « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et puis au verset 18 et 19. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Vous comprenez ce que Paul est en train d'enseigner ici? Il dit que lorsque vous avez reçu l'Esprit par la foi et le baptême en Christ, vous avez été libéré non seulement des conséquences du péché, mais de l'emprise du péché sur votre vie. Et maintenant, vous êtes libre pour pratiquer la justice. Et même votre vie, c'est l'esclavage à la justice. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est pour servir le bien autour de nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous pouvons avoir des vies qui sont remplies de bonnes œuvres, de justice, à cause de l'Esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas par une volonté d'obéir à toutes les règles que cette justice devient cette justice, mais par la puissance agissante de Dieu en nous. Et donc, quand Jésus promet à ceux qui ont faim et soif de justice qu'ils seront rassasiés, il est en train de dire aussi « Je vais vous donner mon esprit qui vous permettra de vivre ce que vous désirez réellement. » Pas encore parfaitement. Cela viendra au retour de Christ et à la résurrection. Mais nous avons une puissance en nous pour vivre et pratiquer le bien et ce qui est juste. Donc Jésus a dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et que si ça, c'est le but de notre vie, bon, il allait s'occuper du reste. Et les questions que nous pouvons nous poser au niveau personnel, maintenant que nous avons peut-être une meilleure idée de ce que Jésus veut dire, c'est premièrement, est-ce que nous avons faim et soif de justice? Ou est-ce que nous sommes comme ceux qui sont soit indifférents, soit même les oppresseurs et les injustes dans notre vie? Est-ce que nous avons un désir de voir Dieu intervenir pour ramener le droit dans le monde? Est-ce que nous voyons la souffrance des faibles autour de nous? Est-ce que nous voyons ceux qui sont maltraités et nous avons le désir de changer ces choses? Est-ce que nous passons à l'acte? Est-ce que nous avons le cœur qui est brisé par le mal autour de nous? Ou est-ce que nous recherchons simplement notre propre confort et notre propre joie? Est-ce que nous pratiquons la justice aujourd'hui? Est-ce que c'est le désir de notre cœur? Est-ce que notre motivation dans nos relations les uns avec les autres, lorsque nous sommes confrontés à des risques, à des choix difficiles, est-ce que c'est de dire « je veux pratiquer ce qui est juste, je veux faire ce qui plaît à Dieu dans toutes circonstances » ou est-ce que c'est de nous protéger, de nous faire plaisir, de maximiser notre confort? Bon, Jésus donne des exemples très concrets de ceux qui pratiquent la justice. C'est ceux qui ont deux manteaux, ils en donnent un à ceux qui n'ont pas. Là, c'est Jean-Baptiste. C'est ceux qui donnent à manger et à boire à ceux qui sont dans le besoin. C'est ceux qui visitent les malades et les prisonniers. Voilà ceux qui pratiquent la justice. Et est-ce que nous, donc, nous avons des vies non seulement qui disent non au péché et au mensonge et à la malhonnêteté, mais qui sont remplies de miséricorde? Parce que la miséricorde, selon Dieu, ça c'est la justice mise à l'œuvre dans le monde. Donc si tel est notre désir, et telle est notre attente de Dieu, qu'il vienne dans le monde pour amener la justice, nous ne serons jamais déçus. Que Dieu nous aide, par son esprit, à être des hommes et des femmes de justes, où la justice est visible devant le monde, et nous aide en tant que communauté, en tant qu'Église, à être une lumière pour le monde par la justice.